Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire de ce soir, Yasmina Cordonnier, responsable de la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice. Elle nous présentera deux nouveaux ouvrages à l'enseigne de Miroir de Page. Ensuite, Charles Barbier, le programmateur de la saison culturelle de l'abbaye, nous parlera du grand concert dansé que donneront Ariana Saval et l'ensemble Irundo Maris. C'est ce samedi, le 18 mars, à la basilique de Saint-Maurice. Culture encore, on parlera musique de cuivre en seconde partie d'émission après 18h. Nous en saurons un peu plus sur l'ensemble de cuivre Ambitus en marge de son concert annuel du 26 mars prochain à Collonges. Ce sera en compagnie de Cédric Pochon, le président, et d'un musicien de cette formation. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023. Nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio. Et cette première partie d'émission, Miroir de Page, avec Yasmina. Bonsoir Yasmina. Pour débuter cette chronique, on va parler d'un ouvrage de Sergio del Molino, un auteur espagnol, un livre intitulé « Histoire dans ma peau », édition du Sous-sol. Sergio del Molino, c'est un journaliste, il est aussi un auteur célèbre, il est apprécié en Espagne. « Histoire de ma peau », c'est son premier ouvrage qui est traduit assez étonnamment en français. Yasmina, on part avec ce livre dans les années 80.
Oui, alors on retrouve del Molino enfant, nous sommes en été sur la plage. Et ce sont les années sida. Il faut faire attention car on raconte que des seringues sont enterrées dans le sable, aiguilles pointées vers le ciel pour mieux piquer. Et un jour arrive ce qui devait arriver. Le jeune Sergio sent une douleur vive aux pieds. Il voit perler quelques gouttes de sang. Ça y est, il est persuadé qu'il va mourir. Ce sentiment d'avoir franchi une frontière, d'être du côté des contaminés, des malades s'installe et va perdurer jusqu'à l'âge adulte. Vers 21 ans, alors qu'il est étudiant, apparaissent des petites taches rouges sur son corps. Le diagnostic tombe, psoriasis, maladie chronique auto-immune de la peau. Ces plaques rouges provoquent de terribles démangeaisons qu'il gratte jusqu'au sang, laissant des traînées rouges sur ses habits. La douleur est tellement grande parfois qu'il ne peut même plus s'allonger aux côtés de son enfant lorsqu'il lui raconte les histoires le soir, ni le prendre dans ses bras. Il essaye plusieurs traitements, parfois dangereux.
Alors l'objectif pour lui, c'est vraiment de tout essayer pour se fondre dans la masse, pour plus être perçu comme un monstre à travers les yeux des autres. Et l'auteur, met en avant des personnes célèbres avec lesquelles il partage ce trouble, il décide d'en parler.
Oui, il croise à nouveau Joseph Staline. Alors pourquoi à nouveau? Parce que lorsqu'il était étudiant, il se faisait tirer les cartes par sa colocataire et la carte du diable était sortie sous les traits de Staline. Ça l'a beaucoup marqué, surtout le regard de Staline l'a beaucoup marqué. Alors, au contraire de ses compagnons bolcheviques qui se montraient volontiers dans un excès de virilité, torse nu, Staline est toujours en chemise et pantalon long. Seuls son fils adoptif et Kirov, son compagnon de lutte, sont au courant. Parce que sa maladie est un aveu de faiblesse et doit être cachée. On peut aussi mentionner que les deux personnes à qui il délègue les grandes purges, sont elles aussi atteintes de psoriasis. On croise aussi Pablo Escobar, mais il y a aussi des personnages plus sympathiques, comme la chanteuse Cindy Lauper. Alors, elle développe un psoriasis assez tard. Et le portrait qu'il nous dresse est très touchant. On voit qu'il aime vraiment cette chanteuse, avec cependant un bémol, parce que Cindy Lauper distille ses conseils. Donc, elle fait de la méditation avec un maître, elle a une très bonne hygiène de vie, médecine alternative. Mais ce qu'elle ne mentionne pas, c'est que lorsque la douleur est très grande, pour la calmer, elle s'envoie des shots estampillés Novartis.
À partir de ces projets, on part dans une autre direction, l'auteur s'interroge, il se demande s'il pourrait y avoir une corrélation, une relation entre le psoriasis et son rapport au monde.
Oui, alors l'auteur ouvre encore plus son sujet, il va parler de la peau en général, notamment avec un chapitre qu'il nomme « Une très brève histoire du racisme ». Alors il se remémore son enfance et se souvient que pour lui, plus la couleur de peau était foncée, plus le danger était grand. Par exemple, pour dessiner les visages des paisibles villageois attaqués, il prenait ses jolis crayons roses, alors que pour les pilleurs qui débarquaient de leur navire, le teint virait plutôt au marron. Et il étaye aussi ses propos à travers de nombreux exemples. Alors, notamment l'histoire d'El Negro. On est en 1992 dans un village des Pyrénées catalanes et un homme se balade dans un musée. Et là, il y a des animaux empaillés et au milieu trône un homme empaillé. Alors, il est complètement choqué. Il y a une polémique qui enfle et il faudra attendre 1997 pour qu'on désempaille cet homme et qu'enfin il soit enterré dignement au Botswana. Alors l'auteur pose une question toute rhétorique. Est-ce que cela aurait été possible avec un homme blanc de peau ? Il y a aussi de très belles pages sur la paternité où il parle de ce contact peau à peau avec son enfant, fait de bisous et de chatouillis et qui cesseront dès qu'il grandira. Et là aussi, ça lui permet de se rappeler ses premiers amours, ses premiers baisers. Alors Sergio Del Molino nous offre une œuvre très dense, inclassable. Il emprunte la voie du récit personnel pour rejoindre le récit collectif. Alors, tous les thèmes abordés s'enchaînent avec cohérence et son talent amène une touche de légèreté sur un sujet qui ne l'est pas vraiment. J'ai souri et même parfois ri, bien malgré moi. C'est à mon avis une entrée fracassante dans le paysage de la littérature traduite qui ne devrait pas rester sans suite.
C'est vrai que c'est intéressant parce que vu la thématique, le psoriasis, on ne s'attend pas forcément à rire ou sourire en lisant ce livre.
Pas du tout. Et d'ailleurs, heureusement qu'on me l'a fortement conseillé parce que je ne l'aurais pas lu.
Et on le conseille aussi fortement aux auditeurs. Du coup, on en profite. Le second ouvrage d'aujourd'hui s'intitule « Deux innocents ». C'est un livre d'Alice Fernet paru aux éditions Actes Sud.
Oui, c'est la rentrée scolaire. L'atmosphère est joyeuse et bruyante. Des rires fusent. Les élèves s'embrassent, s'applaudissent. Nous sommes à l'embellie. L'embellie est une institution pour handicapés qui s'occupe de jeunes entre 14 et 20 ans. Alors Claire se réjouit de retrouver ses protégés. D'ailleurs, cette année, elle accueille un petit nouveau dans sa classe, Gabriel Noblet. Il semble mal à l'aise dans son costume. Claire met ça sur le compte de la nouveauté. Mais petit à petit, elle perçoit chez Gabriel un mal-être plus profond. Il regarde toujours par terre, ne répond jamais aux questions. Il est vraiment replié sur lui-même. Mais elle sait qu'il ne faut rien brusquer. Et au fil des jours, Gabriel s'ouvre, s'épanouit et participe enfin en classe.
Ce personnage, Claire, il se distingue dans ce livre, on peut le dire, surtout par rapport à ses collègues qui souvent se contentent du minimum, qui même ont parfois baissé les bras dans leur travail. Claire, c'est un personnage qui a encore le feu sacré.
Oui, c'est vrai. Claire a foi en sa mission. Elle est spontanée, pleine d'enthousiasme, empathique et elle s'épanouit au contact de ses jeunes. Ses résultats sont d'ailleurs très bons et elle est appréciée autant des élèves que des parents. Il est vrai que certains d'entre eux sont plus demandeurs et c'est justement le cas de Gabriel qui aime être pris dans ses bras. Lorsqu'il lui demande son numéro de portable, prise de cours, elle le lui donne. Elle en parle quand même avec son mari qui lui conseille, pour éviter tout malentendu, d'avertir la direction. Mais voilà, les vacances d'automne sont là et Claire, ne voyant pas le danger, décide de s'en occuper à la rentrée.
Mais voilà, on vous voit venir. Il y a peut-être que elle n'aurait pas dû attendre Claire. Elle n'aurait pas dû laisser passer les vacances.
Non, elle n'aurait vraiment pas dû laisser passer les vacances parce que dès que les cours reprennent, Madame Joyeux, la directrice, la convoque. La mère de Gabriel l'accuse de gestes inappropriés. Alors, dans un premier temps, Claire pense qu'en ayant une entrevue avec les parents, les choses vont s'arranger, mais le dialogue est impossible. La question qu'on peut se poser, est-ce que Madame Noblet est persuadée de la justesse de ses accusations ou est-ce que devant le succès de Claire, elles se sont dépossédées en tant que mère ? Claire ne peut pas aussi compter sur le soutien de la directrice. Le courant n'est jamais passé entre ces deux femmes que tout oppose. Annick Joyeux, d'ailleurs, trouve cette enseignante incontrôlable et ne cherche qu'à protéger l'institution. Donc la justice va être saisie, la machine se met en marche. Claire reste persuadée que la vérité éclatera, mais son innocence joue contre elle. Alice Fernet nous dresse à travers une écriture claire et précise le portrait d'une femme à contre-courant des héroïnes actuelles. Claire est une femme profondément croyante et c'est d'ailleurs cette foi qui va lui permettre de tenir le coup. Elle est investie auprès de la paroisse. C'est aussi une femme qui ne cherche pas à faire carrière. Elle a travaillé comme secrétaire, mais elle n'a pas du tout aimé ce job. Elle le trouvait d'ailleurs vide de sens. Elle souhaite vraiment un travail en adéquation avec ses convictions et qui lui laisse surtout suffisamment de temps pour s'occuper de son fils et de son mari. À travers l'histoire de Claire, on s'interroge sur les dérapages de la justice et surtout sur la place que nous laissons dans nos relations, quelles qu'elles soient, au cœur, à la tendresse et au toucher.
Alors pour connaître la fin de Deux Innocents, un livre d'Alice Fernet, pour découvrir le premier ouvrage traduit en français de l'auteur espagnol Sergio del Molino, Histoire de ma peau, rendez-vous à la librairie Saint-Augustin où ces deux ouvrages sont bien évidemment disponibles et plein d'autres. Merci pour votre visite, Yasmina. On se dit dans 2 semaines.
Dans 2 semaines, avec plaisir.
Jeudredi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, Thierry Vrobatel, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Dawn, the world is dawn. It's no trick of the light, it's hard on the soul.
In the gray of the streets, in the neon unknown.
Et après cette chronique littéraire, on va rester dans le rayon culturel, on va parler musique et on va se tourner du côté de l'Abbaye, parler d'un grand concert prestigieux à venir avec Charles Barbier. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors, tout le monde ne vous connaît pas, il faut le dire, on va faire les présentations pour commencer. On peut lire sur internet, en tout cas c'est ce que j'ai lu quelque part, directeur de la musique mais aussi chanteur, chef d'orchestre. Qui êtes-vous Charles Barbier ?
Excellente question, je suis un Breton qui me réjouit depuis 5 ans de devenir agonois d'adoption. Je travaille à l'abbaye de Saint-Maurice, dans lequel maintenant donc ce poste de directeur de la musique s'est transformé en poste de chargé de programmation culturelle, parce qu'après tous les efforts qui ont été faits par l'abbaye depuis des années, notamment les grands travaux de grandes orgues de l'abbaye, on va pouvoir mettre en place une saison culturelle avec la programmation de différents concerts, dont ce premier grand concert, samedi qui vient.
On va y arriver. Alors justement, on peut maintenant un peu plus facilement cadrer hein, avec ce titre vos activités au sein de l'abbaye. En fait, finalement, votre domaine, c'est de gérer toute cette programmation musicale ou ça s'élargit aussi à d'autres choses ?
Ça s'élargit aussi à d'autres choses. Il y a toute une partie également liturgique, en chantant pour les grandes célébrations et les célébrations dominicales à l'abbaye. Et puis justement, c'est permettre à l'abbaye de rayonner à l'extérieur et puis inviter d'autres personnes, par le biais de la culture, à oser franchir le pas de l'abbaye.
Saison culturelle à l'abbaye, donc là on parle vraiment d'une série de concerts, de productions dans les murs de la basilique.
Absolument, une série de concerts. Par rapport à ça, l'idée c'est de pouvoir s'inscrire dans le paysage culturel, donc d'une part avec tout ce qui se fait au niveau du théâtre du Martelet, mais aussi en lien avec les concerts qui peuvent avoir lieu à la Fondation Janada ou encore au théâtre du Crochetant ou à Sion. Donc par rapport à ça, ce qui nous intéresse, c'est de proposer un certain nombre de grands concerts avec des ensembles reconnus, mais qui abordent soit un répertoire différent, soit avec une autre sensibilité. Exemple de samedi, Iron Domaris, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas ce grand ensemble européen de musique ancienne qui vient pour créer un programme, donc c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, où ils vont se réunir avec un soliste du Ballet Béjart.
Une exclusivité. Exact. Il y a des piliers, on peut le dire, trois piliers musicaux de l'abbaye, ça c'est quelque chose aussi de particulier.
Oui, l'abbaye, donc c'est 1500 ans, un peu plus même, d'histoire. Et dans ces 1500 ans d'histoire, trois piliers musicaux. Ces trois piliers, on s'en doute bien, le premier, c'est la voix. La voix, la louange perpétuelle depuis 1500 ans. Il n'y a pas eu une journée où les moines et ensuite les chanoines n'ont pas chanté, n'ont pas prié. Donc la voix, un des piliers centraux de la musique à l'abbaye. L'autre, l'orgue, on en a parlé tout à l'heure avec ses grands travaux avec la maison Kuhn, grand facteur d'orgue suisse, et le carillon, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, on entend régulièrement les cloches sonner sans se rendre compte qu'on a le plus grand et le plus gros carillon de Suisse.
Carillon, c'est un ensemble de cloches, on peut dire ça comme ça ?
Oui, exactement, c'est un ensemble de cloches qu'on peut sonner. Alors, il y a une partie des cloches qu'on va entendre à la volée, c'est-à-dire sonner bang, 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 voilà, où on entend bien notamment pour appeler pour les différentes célébrations. Et la partie carillon en tant que telle, c'est un instrument de musique. Il faut savoir d'ailleurs, ça c'est très intéressant, que le carillonnage, alors plus spécifiquement à la piquée et la volée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que le fait de jouer du carillon, c'est un patrimoine immatériel, cantonal, devenu depuis un an patrimoine immatériel, donc tradition vivante, pour le dire comme ça, au niveau de la fédération. Voilà. Donc le carillon en Suisse, c'est très important. Et on a la chance à Saint-Maurice d'avoir le plus grand et le plus gros carillon de Suisse. Donc pour les mélomanes, ça fait qu'on peut jouer sur plus de 4 octaves. Donc c'est vraiment très impressionnant ce qu'on peut faire comme musique ici.
Donc on imagine que pour jouer, il n'y a pas besoin, comme peut-être dans les vieux films, de se suspendre à une corde pour faire sonner la cloche. C'est quand même un système un peu plus évolué.
Ouais, c'est ça. Allez, de l'extérieur, on va dire que ça ressemble un petit peu à un clavier qu'on peut avoir, aussi bien un clavier de piano ou un clavier d'orgue. Je dirais que ça ressemble un petit peu plus au clavier d'orgue, dans le sens où il y a également un pédalier, c'est-à-dire que le carillonneur ou la carillonneuse va jouer aussi bien avec ses mains qu'avec ses pieds. Donc c'est quelque chose d'extrêmement physique, extrêmement visuel.
Ah, il faut savoir utiliser tous ses membres. Parlons un petit peu de cette saison qui arrive. Elle va commencer, première date, là c'est le 18 mars. Donc ça arrive, hein, c'est ce week-end. Et l'annonce, elle est très, très claire. On parle d'une innovation. De quoi s'agit-il ?
Voilà, d'un grand concert dansé. Alors ça fait partie des choses qui peuvent questionner. On va dire que le fait que l'ensemble Hirundomaris, donc qui est dirigé par Arianna Saval et également Peter Udland Johansen, ce sont deux grands noms de la musique ancienne depuis plus de 10 ans. Arianna Saval, c'est la fille de Montserrat Figueras et de Jordi Saval, parmi des pionniers de la musique ancienne il y a 40 ans, donc des gens très connus qu'on entend vraiment absolument partout. Là, ce qui est assez magnifique, c'est que en 88, les parents d'Arianna, donc Jordi et Montserrat, ont enregistré un disque autour de ces chants de la Sibylle. Donc un répertoire un petit peu autour de l'hiver, autour de la place de la femme aussi, donc toute cette attente, le rapport aussi à Noël et à l'hiver en général. Extrêmement mystique, extrêmement poétique. Ce disque, en 88, a été un carton, vraiment. Ça a été énormément acheté, repris. Et en fait, malheureusement, la maman d'Arianna, Montserrat, est décédée avant d'avoir pu enregistrer la suite et terminer, on va dire, le cycle. Donc, il y a ce côté extrêmement beau où aujourd'hui, en tant qu'artiste aguerri maintenant, pas simplement la petite fille qui chante, mais en tant qu'artiste aguerri, Arianna, on va dire, reprend avec son conjoint, avec Peter, de la même manière où ses parents avaient repris ce flambeau pour faire découvrir ce répertoire extraordinaire espagnol. Donc elle reprend le flambeau et va le partager avec le public avant de l'enregistrer. Donc ça déjà, première chose, ça va être quelque chose d'extrêmement fort parce que c'est un projet qui est né il y a des années, qui aujourd'hui voit enfin le jour. Et puis ce qui est extrêmement fort, c'est que pendant des siècles, toute la période médiévale, on dansait dans les églises. Donc aujourd'hui, on a un petit peu du mal à imaginer ça. Une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que on s'en rend compte dès lors qu'on va dans les musées et qu'on observe des peintures anciennes sur les intérieurs des églises, il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de bancs.
On était debout.
On était debout, exactement. Donc déjà, c'était un rapport à l'église complètement différent. Et il faut savoir qu'on dansait. Donc on a un certain nombre de textes musicaux, de manuscrits anciens, dans lesquels s'est mise cette pièce de danse en rond, de différentes choses. Donc là, ce qu'on fait, c'est pas samedi de proposer une récréation historique qui n'a plus de sens parce que la situation a changé. Aujourd'hui, le monde a changé. Voilà. Le propos dans cette création, spécialement pour Saint-Maurice, c'était quoi ? C'était le fait de se dire que comment aujourd'hui on peut toucher les gens avec la danse ? Et par rapport à ça, quand on parle de danse, quand on parle d'aujourd'hui à des Suisses, on dit ballet béjart.
Voilà. Forcément.
Forcément. Donc par rapport à ça, plutôt que d'essayer de recréer une chorégraphie médiévale, c'est plutôt laisser carte blanche à un artiste soliste du ballet béjart pour réinterpréter toute cette musique médiévale. Donc Francisco Javier Casado Suarez sera là samedi pour danser avec l'équipe d'Arianna Saval et d'Hirundomaris. Et puis ils nous ont demandé, parce qu'ils se connaissent bien déjà à l'époque où Pascal Crittin dirigeait l'ensemble vocal de Saint-Maurice, ils avaient fait des concerts ensemble avec Arianna Saval. Et donc il y aura quelques chanteurs de l'ensemble vocal pour ajouter des touches de chœur et des couleurs un petit peu différentes.
Et un peu de couleurs locales, du coup.
Exactement, en plus. Eh oui, tout à fait.
C'est de la musique, on peut le lire, de pièces du Moyen-Âge. Ce genre musical, on peut aujourd'hui, quand on joue ces morceaux, on sait qu'on reproduit ce qui était écrit et interprété à l'époque où, avec les instruments et ces nouveaux instruments, c'est quelque chose d'un peu différent. Est-ce qu'on arrive à toucher ça, à jauger ça ?
Ah, excellente question. Par rapport à ça, c'est sûr que les recherches d'une part musicologiques, donc là ce programme s'est fait aussi avec une musicologue espagnole, et les recherches en facture instrumentale fait qu'aujourd'hui on peut être beaucoup plus proche. C'est-à-dire que les instruments que vous pourrez entendre ce samedi, ce sont des copies d'instruments historiques. Donc on sait qu'en termes de couleurs, on est extrêmement proche. L'autre chose aussi qui a beaucoup évolué, c'est que au-delà des partitions en tant que telles, il y a un certain nombre de manuscrits qui nous ont donné des clés pour comprendre cette musique et savoir comment l'interpréter. Donc des traités qui, on va dire, pour le mélomane, sont un petit peu rébarbatifs, mais pour le musicien, sont extrêmement fourmillantes de détails. Et donc, par rapport à ça, on a des idées assez proches de comment on l'interprétait, et notamment d'erreurs d'interprétation qu'on a pu imaginer, à savoir ce côté un petit peu rigide, un petit peu pesant, un peu lourd. On se dit, voilà, de la partie médiévale, soit avec les trompettes façon péplum, pam, patadam, pam, pam, pam pam, voilà, soit ouais, avec le chant grégorien mesuré Kyrie Eleison, voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y avait toute une souplesse qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir comme musique traditionnelle, voilà, ou même comme certaines choses, ben en fait, on a des systèmes de refrains et de couplets comme on peut avoir dans de la pop. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de partir de toutes ces connaissances historiquement informées, comme on dit, de tout ce qu'on sait sur la musique, le contexte historique et comment on l'interprétait, et aujourd'hui se dire, ben, vu que cette musique a été écrite pour que les gens de l'époque soient touchés, comment aujourd'hui, avec nos outils actuels, on peut toucher les gens. Et justement, c'est pour ça qu'il y a la touche locale, si je reprends l'expression de tout à l'heure, avec l'ensemble vocal, voilà, pour que y ait cette affinité avec des gens que le public en partie connaît, et puis d'autre part avec ce danseur qui va proposer une chorégraphie contemporaine pour justement susciter la surprise des mélomanes, des spectateurs qui seront présents.
Et une manière de faire vivre aussi la musique avec les yeux.
Exact, exact, absolument.
Ça, c'est pour ce week-end, pour le 13.
Oui, hein, tout à fait.
Pour les infos pratiques, peut-être, juste pour le dire, hein, c'est à 19h45, il faut réserver.
20h30. Le 19h45, c'est l'ouverture des portes.
Ah, l'ouverture des portes, pas 19h45. Alors, le placement est libre, mais il faut réserver, hein, c'est important.
Exactement.
Pour réserver, il y a une adresse internet, c'est Reza Booking, je crois.
Booking Corner.
Voilà, Booking Corner, c'est booking-corner.com. Ça, c'est pour ce week-end.
Absolument.
On a toute une saison culturelle hein, qui s'annonce, on l'a dit. Le programme est assez vaste, on va pas avoir le temps de passer en revue tous les détails. Déjà, des anniversaires, ça c'est quelque chose aussi qui est en titre, au tout début de la programmation.
Tout à fait.
De nombreux anniversaires cette année.
Alors, dans les nombreux anniversaires qui nous touchent de façon directe et indirecte, il y a notamment les 20 ans de l'association Son Kiba, dont l'abbé Monseigneur Scarcella est président, donc ça, qui organise régulièrement des concerts à l'abbaye. Il y aura également les 40 ans de l'Oberwalliser, donc il y a un ensemble du Haut-Valais qui dirige Hans-Rudi Kempfen, qui va se rejoindre avec nous pour les 60 ans de l'ensemble vocal de Saint-Maurice. Et puis, petit clin d'œil, parce que les deux petits frères que sont l'Oberwalliser et puis l'ensemble vocal de Saint-Maurice, à eux deux, réunissent 100 ans. Et 100 ans, c'est les 100 ans du chœur mixte de Saint-Maurice qui vous proposeront, mais je pense qu'on pourra en reparler encore, en septembre, un grand festival autour de leur 100e anniversaire, septembre-octobre, avec plein de surprises. Ça, vous allez tous pouvoir vous réjouir.
Parmi les diverses dates qui sont proposées durant cette saison, je l'ai dit, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous tiennent particulièrement à cœur, peut-être ?
Alors, dans les dates qui me tiennent notamment à cœur, il y a le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Et attention, c'est Elias de Félix Mendelssohn, un magnifique oratorio, grande œuvre romantique, tellement grande qu'on ne la fera pas comme d'habitude. C'est le concert de la passion que les auditeurs ont l'habitude d'écouter. Cette fois-ci, il ne sera pas à la basilique pour des raisons de nombre d'artistes, mais à la salle du Martelet, donc le 1er avril. Donc ça, c'est quelque chose aussi à retenir. Et puis tout à l'heure, on parlait Carillon, donc notamment, par exemple, le 20 mai, on a la chance d'accueillir la classe supérieure de l'école royale de Carillon de Malines en Belgique. Donc qu'est-ce que c'est ? On va dire c'est la Rolls-Royce des Carillons. Voilà, ça c'est vraiment les gens qui rentrent dans cette école, c'est les grands carillonneurs de l'avenir qui vont venir à Saint-Maurice le 20 mai. Et puis le lundi Pentecôte, on aura la petite messe solennelle de Rossini. Donc voilà, un certain nombre de concerts et allez, une dernière date, allez. 17 juin, grand concert, Mozart à Salzbourg, le concert spirituel qui depuis près de 40 ans est un des ensembles pionniers pour les musiques baroques, classiques et romantiques en France. C'est aussi un ensemble que j'aime beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de disques ensemble.
Ça crée des liens.
Ça crée des liens. Et qui viennent faire un extraordinaire programme Mozart à Salzbourg, donc des messes brèves de Mozart avec chœur, orchestre et le tout mis en lumière. Donc ça fait partie de la suite des fameux grands concerts. Donc samedi, c'est le premier grand concert de l'abbaye, donc une nouvelle programmation, nouveau principe, et puis le 17 juin, encore un autre grand concert de l'abbaye.
Voilà, pour les dates à venir, Charles Barbier, merci d'être venu nous rendre visite. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour la suite de cette saison, parce qu'il y a forcément des choses très très importantes et très très intéressantes à mettre en valeur pour émerveiller nos oreilles. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Longtemps après sa première revue, la troupe des Tréteaux du Parvis présente La Revue s'illustre, la 8e revue agonoise tous les vendredis, samedis et dimanches du 11 mars au 1er avril à l'Aula de la Tuilerie de Saint-Maurice. Réservation sur tréteauduparvis.ch et auprès de Saint-Maurice Tourisme. La 8e revue agonoise, un spectacle tout en couleurs et majoritairement en français du 11 mars au 1er avril à Saint-Maurice.
Il est 18h02, tout pile, vous êtes toujours sur Agone Radio, c'est toujours jeudredi. Pour cette deuxième partie d'émission, l'excellent Victor Glasset nous a rejoint. On va parler musique de cuivre pour être précis, avec des représentants de l'ensemble Ambitus qui se produira pour son concert annuel le 26 mars, c'est à Collonges. On aura Cédric Pochon qui est déjà assis là, qui est le président d'Ambitus, et puis Baptiste Grange, musicien de cette formation. Avant de discuter avec eux, écoutons un petit peu qu'est-ce qu'ils font.
Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de Cavalerie légère du très célèbre Franz von Zuppé. Alors ma première question, est-ce que c'est facile de jouer des morceaux connus, du classique ?
Alors ouais, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est facile ou pas facile ? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que le public a forcément une attente, vu qu'il connaît le morceau, donc il sera peut-être plus intransigeant, il va plus se rendre compte s'il y a une petite erreur à gauche à droite. Donc ouais, ça demande d'être vraiment bien concentré. Après, d'un autre côté, ben, c'est toujours un plaisir parce qu'on connaît la pièce, puis on marche dans les traces de très grands musiciens quand j'ai interprété ces morceaux. Et oui, moi, je vois plus ça comme un plaisir que comme une pression. Ouais.
Parlons donc d'Ambitus, Ambitus Ensemble de Cuivre, relativement connu, peut-être pas pour tous nos auditeurs. Donc Cédric, comment est né cet ensemble ?
Alors en fait, cet ensemble est né en 2001 suite à l'organisation des championnats suisses des solistes à Orcières. Fort de ce succès, ils ont un petit peu réuni toutes les écoles de musique de la région d'Entremont, donc Orcières, Bagne, Lille, tout ça. Et ils en ont parlé aux jeunes, qu'ils ont fait des auditions. Et ils ont trouvé un directeur, qui était le premier directeur de l'ensemble, qui était Jean-François Bobillier. Un président, qui était Marcel Vernet, le premier.
Donc on est vraiment bien dans l'Entremont, hein, voilà, dans l'ancrage d'Orcières.
Vraiment Entremont. Les premiers musiciens d'Ambitus étaient vraiment pratiquement 100% entremontais.
Marcel Vernet, pour nos auditeurs, le frère de Dédé Vernet.
Tout à fait. Et voilà, ils ont trouvé un directeur, un président, des musiciens, et la première répétition a eu lieu dans le courant du mois de novembre 2001.
L'objectif, c'était de faire un brass band pour faire une musique différente de répétition de fanfare.
L'objectif était de faire un ensemble avec un niveau un peu plus élevé que les fanfares, pour que les jeunes aient un peu, un peu plus à jouer, en fait.
Ambitus, ça veut dire quoi ? Ambition, c'est un mot...
Alors non, ambitus, c'est un terme musical. En fait, ça veut dire que par rapport à un instrument, c'est la note la plus basse et la note la plus haute que peut faire un instrument. C'est l'ambitus de l'instrument. Donc, voilà.
Ah ben, on a appris quelque chose. Création 2001, nous sommes en 2023, 22 ans d'existence.
Oui, tout à fait.
Une grande histoire, beaucoup de concours ?
On a commencé les concours, les deux premières années, on n'a pas été à Montreux. Ensuite, on a été à Montreux toutes les années, c'est-à-dire 20 concours, 20 championnats suisses à Montreux. Ensuite, on a fait trois fois les championnats du monde à Kerkrad.
En quelle catégorie ?
La première année en deuxième, on a gagné le titre de champion du monde. Et les deux suivantes en première catégorie, où on a fait quatrième et cinquième l'année passée. Et on a aussi participé à l'Open de France à Amboise en 2015, où on a aussi gagné le titre en première catégorie.
Donc nous avons des champions du monde autour de la table. Baptiste, quelle est la motivation de jouer dans un tel brass band ?
La motivation de jouer dans un tel brass band, alors c'est de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait dans nos fanfares de village, ou dans les fanfares de village, ben forcément on a des niveaux très hétérogènes, on a des, comme on dit chez nous, des bons sociétaires et des bons musiciens. On peut avoir les deux également, hein, mais le fait d'aller dans un brass band qui réunit peut-être des musiciens qui travaillent un peu plus à la maison, qui ont un niveau un petit peu plus élevé, ben ça permet un peu de se pousser les uns les autres. Et puis, il y a aussi cette notion de concours, évidemment. C'est toujours un plaisir d'aller au championnat suisse, de se mesurer aux autres ensembles. Et oui, c'est peut-être plus pour le niveau musical.
Comment on devient musicien d'Ambitus ? Alors, on l'a bien compris, il faut être sociétaire, mais sérieux. Comment on rentre dans une société ? Quels sont les critères pour pouvoir participer à Ambitus ou à un autre brass band ?
Alors, les critères, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une audition pour l'entrée. Donc, n'importe qui peut postuler, mais n'importe qui ne sera pas pris. Il faut quand même livrer la marchandise au niveau musical. Ensuite, on peut être de très bons sociétaires et jouer à Ambitus quand même et bien s'amuser. Mais je pense que la clé, l'essentiel, c'est le travail. Enfin, on peut être très fort. Si on ne bosse pas à la maison, ça ne va pas jouer. Et si on s'est bien entraîné dans sa jeunesse et qu'on continue à bien s'entraîner, on peut jouer dans des ensembles du niveau d'Ambitus.
Cédric, quelle est la moyenne d'âge ? C'est plutôt orienté pour les jeunes, Ambitus. Hein.
La moyenne d'âge actuellement...
À part le registre des basses, hein, apparemment.
Oui, effectivement, la moyenne d'âge actuellement, elle est de 24 ans. On va commencer par le plus vieux musicien, il a 58 ans, et le plus jeune musicien a 15 ans. Si on enlève, comme tu dis, Victor, si on enlève un petit peu le registre des basses et les 4-5 plus vieux musiciens de l'ensemble, on arrive à une moyenne d'âge qui est en dessous de 20 ans, en fait.
Puis comment ça se passe vous faites combien de répétitions par année ? Vous avez un local attitré ?
Alors, la saison commence début septembre. Là, on fait la préparation pour les championnats suisses de Montreux. On commence début septembre, les championnats suisses se déroulent fin novembre à Montreux et on a un concert d'automne avec l'ensemble de Cuivre Valaisan mi-novembre. Ensuite, on fait une pause et on recommence la saison mi-janvier pour un concert annuel fin mars. Et puis après, soit on finit la saison là, soit on fait les championnats du monde qui se déroulent à Kerkrade mi-juillet, soit voilà, on a peut-être des concerts de gala pour les festivals, tout ça. Et puis nos lieux de répétition, ça est assez diversifié parce qu'on n'a pas un local propre à nous. On n'a pas non plus de percussions qui sont propres à nous. Ça nous coûterait trop cher, on n'a pas les moyens financiers d'avoir ça. Donc on profite un petit peu des locaux, des fanfares, des musiciens qui jouent chez nous, c'est-à-dire à Saint-Maurice, à Collonges, à Orcières, à Martigny, à Fuy. Et voilà, on a de la chance de pouvoir compter sur toutes ces fanfares qui nous prêtent leurs locaux gratuitement.
Il y a des musiciens de la Gonoise, puisqu'on est quand même deux de la Gonoise autour
Alors
de la
on
table.
A deux,
enfin, presque trois avec
On Pierre a deux Rive. Jeunes musiciens de la Gonoise. On a Chloé de Riva qui joue du cornet et Anton Saiter qui joue du baryton.
Baptiste, on fait comment pour concilier une vie de société avec des répétitions ? J'imagine deux répétitions par semaine et puis une préparation pour un championnat du monde. C'est beaucoup de répétitions, c'est commencé le week-end
Alors oui, c'est énormément de répétitions entre la fanfare de village, Ambitus, les autres ensembles qu'on peut avoir. On a des périodes de l'année, donc par exemple le mois de novembre, octobre, novembre, et puis avant le concert annuel, février, mars, où franchement on a tous les soirs une répétition. Donc faut vraiment aimer ça, et nous on aime ça, donc Même quand on n'a pas de répétition, on s'entraîne à la maison. Donc il faut aimer, mais ça prend du temps.
Donc le concert dimanche, pas ce dimanche, mais dans 10 jours, le 26 mars, à 17h, à Collonges.
Oui, juste à Collonges, le fief du président.
Ah voilà. Avec un nouveau directeur.
Oui, effectivement, depuis cette saison, on a Gilles Rochat qui a fait 4 ans chez nous et il a démissionné pour raisons un peu professionnelles, il a trouvé du travail ailleurs. Donc on a Damien Laguerre qui l'a remplacé. Damien Laguerre qui vient de Chermignon, qui dirige depuis 5 ans l'avenir de Fuy et qui est chez nous depuis ce début de saison et avec qui on a fait une 3e place à Montreux au championnat suisse au mois de novembre l'année passée.
Damien Laguerre qui a un palmarès en tant que tromboniste.
Qui a un palmarès en tant que tromboniste. J'ai fait un petit peu une liste ici. Donc il est arrivé. Donc il joue à l'ensemble de cuivre Valésia. Il est arrivé champion suisse à Montreux en 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Ils ont gagné le championnat d'Europe. Ils sont champion d'Europe des brass bands en 2018. Ensuite, ils ont gagné le British Open à Birmingham en 2017. À savoir que ce British Open est vraiment réservé aux brass bands du Commonwealth. C'est la première fois depuis que ça existe que c'est gagné par un nom anglais, en fait.
Et brass band plus ou moins amateur.
Brass band amateur, voilà, tout à fait. Et ensuite, ils sont arrivés vice-champion du monde à Kerkrade, qui était l'année passée en 2022.
Donc Damien Laguerre, c'est quelqu'un qui connaît les concours, qui connaît ce monde, aucun secret pour
voilà,
lui.
Voilà, tout à fait, ouais.
J'ai vu que c'est aussi un compositeur, puisque la première pièce que vous allez interpréter, Euroflash, c'est composé par Damien Laguerre.
Effectivement.
Cette pièce, une espèce de mini-ouverture en introduction de concert, Baptiste.
Oui, effectivement, alors ça reprend un peu le schéma classique des grands morceaux de brass band qu'on connaît, avec une première partie, comment on pourrait dire ça, très enjouée, très dynamique, après une partie lente avec des solistes qui peuvent s'exprimer et un final grandiose et en beauté. Donc oui, on peut dire que c'est un peu une petite grande pièce et ça va très bien en guise de morceau d'entrée. Je suis sûr que ça plaira beaucoup au public.
J'ai vu que vous avez pris 2 morceaux de votre ancien directeur Gilles Rochat, notamment Fantasia del Tango. Ce morceau, il est vraiment tango?
Alors oui, il est vraiment tango. Oui, on est vraiment dans l'idée qu'on peut se faire d'un morceau consonance hispanique. Donc oui, avec notre soliste Mathieu Huignier à l'euphonium. Vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter. Moi, c'est un de mes morceaux préférés. Je ne l'ai jamais joué, hein. J'arrive pas avec le trombone, mais c'est très joli.
Vous avez 2 parties, c'est classique. Une partie un petit peu plus, je dirais, formelle, concours au début, puis une deuxième partie un petit peu plus light.
Oui, exactement. Oui. Je ne sais pas si on peut dire formelle, concours, mais effectivement, avec toujours le grand morceau, la grande pièce, donc, qui dure à peu près un quart d'heure. Une pièce classique qu'on a écoutée au début. Et puis, morceau d'entrée, oui, assez classique, morceau lent. Et deuxième partie plus festive, avec des morceaux un peu plus diversifiés, un peu plus fun, si on veut.
La pièce principale, c'est Out of the Storm Clouds. Donc, si je traduis bien, c'est en dehors des nuages. Bon, Fabien parle peut-être mieux l'anglais que moi, des tonnerres, etc.
De l'orage.
De l'orage, voilà, voilà. Ouais. C'est une pièce difficile. De quel niveau?
C'est une pièce difficile, oui. Je pense qu'on peut dire que c'est une bonne pièce de première catégorie. Assez difficile, assez exigeante, donc qui nous demande pas mal de travail. Puis pour expliquer en vitesse, ça raconte en fait l'histoire d'un cyclone. Et ça alterne entre des parties où le cyclone il fait vraiment rage, où il détruit tout sous son passage, et des parties où on se situe en fait dans l'œil du cyclone, qui est paradoxalement assez calme, mais toujours inquiétant.
Mélodieux ou vraiment brasse?
Vraiment brasse, ensuite mélodieux, ensuite re-vraiment brasse.
On écoute un extrait. Donc on voit qu'il y a une partie très 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 dynamique, et une partie très mélodieuse. Ça plaît pas à tout le monde, hein. Les musiciens autour de la table, on le sait. Comment on peut inviter les gens qui sont peut-être pas forcément très au fait de ce genre de morceaux, d'écouter, d'apprécier? Faut fermer les yeux?
Ah, c'est une très bonne question. Oui, faut peut-être fermer les yeux, faut vivre la musique qui arrive dans nos oreilles, et puis apprécier les parties mélodiques, et puis peut-être apprécier plus la performance ou les parties techniques dans ce qui est un peu moins mélodieux. Et oui, voir ça en termes de performance, et puis prendre aussi ce qu'on peut apprécier. Ouais.
Il faut aussi apprécier le niveau. Quand on a vu avant le niveau de Cavalerie Légère, donc on est dans le même niveau, donc il y a en fait un choix pour tout le monde.
Oui, tout à fait, tout à fait. À ce niveau-là, on peut jouer des pièces d'horizons assez variés, et puis je pense qu'il y a de quoi contenter tout le monde dans le programme, largement.
Question au président d'Ambitus. Le choix de cette pièce, il y a un objectif derrière, il y a un futur concours, ou c'est simplement une pièce pour le concert?
Non, en fait, c'est simplement une pièce pour le concert. On a l'habitude de préparer le championnat sud de Montreux avec une pièce qu'on a posée par le concours. Et ensuite, quand on recommence la saison pour le concert annuel, on a vraiment une nouvelle pièce, mais c'est uniquement pour le concert.
D'habitude, dans les fanfares, hein, ou les brass bands, le concert annuel, c'est la première, entre guillemets, sortie de l'année. Là, c'est la dernière. Pourquoi?
Ben, c'est la dernière parce qu'en fait, après, on laisse un peu la place aux fanfares, justement. Après, il y a les fanfares qui commencent les répétitions. Il y a les festivals, les amicales qui commencent déjà mi-avril. Donc après, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir faire des répétitions, de pouvoir faire des concerts, du moment que tous les musiciens qu'on a jouent dans les fanfares déjà.
Le fameux mois de mai des musiciens où on n'est jamais à la maison, effectivement. Quand on part au championnat du monde, par exemple, hein, pour le président ou le comité, c'est une énorme organisation. Ça se passe comment?
Alors effectivement, la première année, c'était très difficile parce qu'en plus, je ne parle pas beaucoup le hollandais. Donc c'est un peu compliqué. Mais petit à petit, on s'y fait. Donc voilà, maintenant, on est un peu rodé. Par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau financier parce qu'il nous faut trouver entre 20 et 25 000 francs quand même pour ce voyage.
C'est quoi le logement, le voyage?
Il faut dire qu'en fait, on fait le concours, mais on profite de cette sortie pour faire une sortie. C'est-à-dire cette année, on est parti le samedi, on a fait le concours le dimanche, on a fait 2 jours à Bruxelles et après on a fait 2 jours à Europa Park. Du coup, du moment qu'on fait 11 heures de car, on se dit autant mettre à profit ces 11 heures de car.
Donc c'est toute une organisation.
Ça, une organisation assez conséquente, effectivement.
Comment on peut postuler, en fait, comment on arrive dans un championnat du monde? Est-ce qu'il y a des critères à avoir? Il y a des qualifications? Il y a des qualifications au niveau suisse ou bien...
Alors non, le championnat du monde, en fait, c'est un concours, c'est une fête qui dure un mois à Kerkrad. Et il y a les championnats du monde, c'est de brass band, de musique de représentation, d'harmonie, de fanfare des jeunes. Ça dure un mois vraiment là-bas. C'est nous qu'on envoie une postulation. Et puis après, il y a un nombre limite d'ensembles par catégorie. Et généralement, on a accepté, vu qu'on a déjà été 2 fois, ils nous acceptent. Par contre, en excellence, c'est sur invitation. Là, les excellences, ils peuvent pas, voilà.
Vous êtes un brass band de première catégorie, donc le niveau supérieur, c'est l'excellence. Un jour, excellence ou pas?
Non, jamais. Non, c'est trop difficile. On a des jeunes musiciens... C'est l'excellence, on a une manière de travailler tellement rapide par rapport à une pièce, et puis voilà, ça serait trop compliqué pour nous. Peut-être l'élite éventuellement une année, parce qu'en fait ils ont rajouté une catégorie à Montreux. Il y avait trop de brasses en première, donc ils ont rajouté l'élite. Ça éventuellement, ça pourrait nous intéresser une fois, mais l'excellence, non, c'est un niveau tellement élevé que on n'a pas cette ambition là pour le moment.
Vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes dans Ambitus. Est-ce que c'est l'antichambre d'un autre brass ou est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est une finalité? Alors je ne sais pas, peut-être Baptiste.
Non, alors il faut savoir qu'Ambitus, on est vraiment une entité à part entière. On ne se décrit pas comme l'ensemble B de qui que ce soit. Après, dans les fêtes, évidemment, on a beaucoup de jeunes musiciens qui, après être passés 2, 3, 4 ans chez nous, ils rejoignent un brass band d'excellence plus haut. Par exemple, Valésia ou ECV. On a des bons contacts avec l'ECV, on fait un concert en commun juste avant Montreux, un concert de préparation. Donc on est un bon brass formateur, mais ce n'est pas l'étiquette qu'on veut non plus. On est quand même un brass band à part entière qui a ses objectifs à lui et on n'est pas là pour former des jeunes.
Mais l'objectif quand même de ce brass, c'est quand même de la formation, enfin, c'est quand même donner la possibilité aux jeunes de participer à ce monde des concours.
Alors effectivement, notre grand objectif de la saison, on en a deux, c'est le concert annuel et les championnats suisses de Montreux. Effectivement, oui.
Par rapport à la relation avec les sociétés, ça peut coincer des fois par rapport à des musiciens qui sont dans des fanfares et puis qui ont beaucoup de répétitions avec Ambitus, par exemple, ou un autre brass.
Non, on a une très bonne relation avec les sociétés. On sait faire la part des choses. Maintenant, il y a beaucoup. Ben, nous, on a notre concert dans deux semaines. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui ont leur concert ces jours. On a toujours donné la priorité aux fanfares. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas les fanfares, s'il n'y a pas les musiciens, on n'a pas de musiciens chez nous. Donc voilà, la priorité reste aux fanfares. Et puis si ma foi, ils loupent une répétition ou deux à l'ensemble parce qu'ils ont répétition de la fanfare, ils ont le concert la semaine là, ben voilà, il n'y a pas de souci avec ça.
Il n'y a que des musiciens qui jouent dans d'autres fanfares. Il n'y a pas d'autres musiciens qui jouent qu'à la maison.
Non. Ouais.
Donc une deuxième partie un petit peu plus speed. On va écouter un extrait pour rassurer nos gens qui auraient peut-être un a priori sur les pièces de concours brass band. Donc voilà, ce morceau quand même entraînant qui peut peut-être trancher avec une pièce imposée. Cédric, les finances, on en a parlé avant. Comment on peut contribuer en Bitus? Est-ce qu'on peut faire un don, twinter, quelque chose comme ça?
Alors, on a pas de...
Acheter des bouteilles, puisqu'à l'époque, il y avait une vente de bouteilles,
voilà, effectivement, il y en aura peut-être certainement de nouveaux quand on va repartir à Kerkrade, vu qu'on finance un petit peu notre voyage grâce à ça. Mais non, depuis deux ans maintenant, on a mis sur pied un club des 100. Avant, on faisait un souper de soutien. Maintenant, on a mis sur pied un club des 100, donc toute personne qui veut éventuellement faire partie de ce club des 100, soit vous venez à notre concert dimanche prochain et vous allez voir les musiciens, puis vous leur dites « voilà, moi j'aimerais vous soutenir en vous donnant 100 francs par saison ». Ou si vous croisez un musicien dans la rue, bah, vous l'alpaguez un petit peu, puis là, je veux vous donner 100 francs, ça me fait plaisir.
Plus de souper de soutien?
Non, plus de souper de soutien, ça commence à devenir un petit peu compliqué.
Avec le Covid, hein, bien sûr.
Ouais. Avec le Covid, et puis après, on avait fait un peu le tour des gens. Voilà, puis pour les musiciens, c'est un peu compliqué aussi. Donc, on a un petit peu changé de version, mais ça va très bien aussi.
Baptiste, c'est compliqué pour les musiciens parce que vous n'aimez pas l'ambiance d'un souper?
C'est beaucoup de travail, et puis finalement, on ne profite peut-être pas autant de la soirée que les invités, donc... Mais oui, mais comme il dit Cédric, c'était plus compliqué niveau organisationnel et financier peut-être, je sais pas.
On a beaucoup parlé brass, musique, il y a aussi le côté sociétaire, j'imagine. C'est la même chose que dans une fanfare ou une fanfare de village, ou c'est un petit peu différent l'ambiance? Surtout qu'il y a plein de jeunes, donc ça doit quand même être assez animé parfois.
Voilà, c'est un petit peu différent dans les fanfares de village, parce que c'est peut-être moins intergénérationnel. Alors on a des vieux, on les aime beaucoup, hein Cédric, mais... Non, bah oui, c'est vraiment une équipe de jeunes, donc on fait beaucoup de rencontres. On rencontre des musiciens d'autres fédérations qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans nos festivals et sorties. Et oui, alors une magnifique ambiance, bien sûr. On a encore organisé un bal cette année, le bal des 20 ans d'Ambitus, et ça a été un franc succès. On a tous pu bien s'amuser, puis oui, chaque sortie, chaque concert, c'est toujours des beaux moments d'échange, de rire et de fête.
Un bal public ?
Un bal public, tout à fait.
Attends, on
a pas eu vent ? Oui, oui.
Intéressant. Cédric, donc le concert annuel dans 10 jours, c'est comment ? Ticket corner ?
Non, vous venez à la salle Prafolerie à Quelonge, ouverture des portes à 16h30. Il y aura un bar avec l'excellent vin de la cave des promesses, notre ami Julien Fournier.
Qui a joué à Ambitus ou pas ?
Qui a joué à Ambitus, bien évidemment, oui, il a fait en tout cas 10 ans, au moins. Et donc 16h30, ouverture des portes. Ensuite, après le concert, petit vin de l'amitié offert par l'ensemble. Et puis bar jusqu'... au bout de la nuit, mais vu que c'est dimanche soir...
Ah, il faut choisir un samedi. Voilà. Pourquoi c'est un dimanche à 17h, puis pas un samedi comme une...
Ben, comme j'expliquais avant, justement, c'est la période où il y a plein de concerts de fanfare. Donc tous les samedis sont pris, on est obligé de faire un dimanche.
Donc pour les musiciens d'Ambitus qui ont un concert le samedi soir, ça sera zéro alcool.
Ça ne sera pas d'alcool, j'irai les surveiller, surtout à Salvan.
Donc le rendez-vous est pris dimanche 26 mars 2023 à 17h à Collonges, salle polyvalente. Hein.
Juste...
Merci d'être venu et puis au plaisir d'accueillir une prochaine fois Ambitus quand vous aurez un concours style championnat du monde, championnat d'Europe ou même championnat suisse. Merci beaucoup.
Un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudredi. On recevra les représentants de la Galerie Oblique et de l'espace Contre-Contre dans la perspective du vernissage commun des lieux culturels agonois qui s'annonce le 1er avril prochain. On aura aussi Adrien Favre et James Deriva. Ils nous parleront biodiversité et paysages dans le cadre de notre série d'entretiens consacrée au parc naturel régional de la vallée du Trien. Un grand merci à nos invités du jour. Il y avait Yasmina Cordonnier, Charles Barbier, Cédric Pochon et Baptiste Grange. Rendez-vous, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on y est. Écoutez-nous aussi sur Internet, encore mieux sur le DAB+. Vos réactions, c'est par WhatsApp, le numéro facile 079 150 18 90, 1890 donc. Bonne suite de Jeudredi soir à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine.